Hello tout le monde! Et bon, on se retrouve pour le quoi, quatrième épisode de Allume la lumière. Et aujourd'hui, je suis seul. Maxime n'est pas là. Et voilà, du coup, je vais faire cet épisode en solo. Ça va être un format un peu différent d'habitude, vous allez voir. Mais voilà, testons. Et voilà, donc, j'ai toujours voulu faire un podcast. Enfin, faire un podcast, mais c'est vrai que c'est beaucoup plus motivant quand on est deux. Enfin, plusieurs en tout cas. On a des comptes à rendre, c'est chouette. Mais donc là, ça va être un format un peu différent. Donc voilà, vous pouvez me dire ce que vous en pensez. Et puis, ce qui compte, c'est voilà, c'est qu'on suive encore notre challenge de faire 20 épisodes pour se différencier du reste. Et on va voir ce que ça donne, ce format. Peut-être que j'en referai par la suite. Voilà, de toute façon, les formats vont un peu aussi se diversifier avec le temps. Parce qu'on ne sera pas toujours tous les deux là, hein, avec Maxime, pour enregistrer le podcast. On a une vie à côté de notre entreprise. Si, si, je vous assure. Donc voilà. Bon, du coup, ça me pose la question de savoir si j'ai une semaine. Comment a été ma semaine? Mais du coup, voilà, moi, semaine chargée. Ça a été assez chargé, ouais. Sous différents aspects. Surtout côté business. Parce que, voilà, en fait. On a fait un point avec, avec Maxime. Parce que voilà, quand on a un business, il faut savoir, enfin, faut se partager les responsabilités. On ne fait pas tous les deux les mêmes choses. Tout simplement parce qu'on n'est pas tous les deux bons pour les mêmes choses. D'ailleurs, je l'ai déjà dit, mais avec Maxime, on a des personnalités assez opposées. Ce qui est chouette parce qu'on se complète très très bien. Et on se challenge aussi naturellement, on va dire. Et donc voilà, en fait, nous, on a des responsabilités qu'on s'est définies de base, quoi, quand on avait décidé de s'associer. Donc des rôles différents dans l'entreprise, et qui étaient autant définis par les hard skills que par les soft skills. Donc pour expliquer, les soft skills, c'est... Non, je vais commencer par les hard skills. Les hard skills, c'est tout ce qui est... Enfin, bon, ma définition en moi, en tout cas, hein, c'est toutes les compétences qui sont techniques, c'est-à-dire développement informatique, par exemple. C'est des choses vraiment qu'on apprend, entre guillemets, j'ai bien entre guillemets, à l'école. Voilà, c'est des choses assez techniques qui demandent un petit temps d'apprentissage et aussi un petit temps de maîtrise. Et donc, on va dire... Complément à ça, on a les soft skills, donc les compétences douces, qui vont plus être des compétences humaines qui vont aider à la communication, par exemple, ben justement être un bon communicant, être quelqu'un, je sais pas, qui a plus l'esprit analytique. Je dirais que c'est plus des personnalités qui font partie du, pardon, plus des cas, des compétences qui font partie de la personnalité et du caractère que les hard skills. Donc voilà, avec Maxime, on a des surtout des soft skills qui vont bien se compléter, des hard skills aussi, mais surtout les soft skills. Et en fait, ce qui se passe, c'est que lui est chargé plus de ce qui est marketing, prospection, plus les choses même... comment dire? Ouais, plus en fait tout ce qui est... tout ce qui est fonctionnement même dans l'entreprise, on va dire. Vente aussi, oui. Enfin, en fait, tout ce qui est aussi chiffres, c'est plus son truc, à vrai dire. Et moi, je vais être. Enfin, moi, je suis, pardon. Je suis responsable customer care. Donc, c'est moi qui entretiens la relation client et qui me charge d'avoir une bonne relation avec eux. Et aussi, alors, ça, on déléguera quand on pourra. Mais je suis aussi chargé, en fait, de faire le community manager. Donc, quand on doit livrer à nos clients les publications Instagram, ça, c'est moi qui m'en occupe. Donc, en gros, en termes de vraiment de process, Maxime se charge de ce qui est acquisition de clients, prospection, la vente, parce qu'il est bon pour ça. Enfin, en tout cas, il est meilleur que moi pour ça. Moi, je vais être plus hésitant et plus... voilà, un peu plus favorable... comment dire? Peut-être plus me laisser entre guillemets avoir par le client. Enfin, c'est pas les mots que je veux dire exactement. Ce sera plus facile de négocier avec moi qu'avec Maxime, en gros. Et donc voilà, en termes de process, pour revenir à ce que je disais, Maxime se charge donc marketing, vente, acquisition client. Moi, je me charge plus de, du coup, la partie exécution ou bah voilà, la partie même plus technique, mais ça, c'est mon background d'ingénieur. Où donc, moi, je vais prévoir les publications, entretenir la relation client, enfin, passer les coups de fil avec le client, ce qui entretient la relation, que ce soit au téléphone ou par mail d'ailleurs, collecte du feedback. Et dans l'ensemble, c'est ça. Après, pour ce qui est fonctionnement, enfin, je veux dire, évolution de l'entreprise de Lumessia, donc en tant que telle, là, on est chacun, enfin, c'est 50-50. Parce que moi, je suis bon pour tout ce qui est utilisation d'outils. Par exemple, je sais pas, Notion, je connais très très bien. Et c'est moi qui vais mettre les process en place parce que je suis peut-être plus patient pour mettre des gros trucs en place que Maxime. C'est, enfin, puis même, c'est quelque chose que j'aime bien faire, créer de l'organisation dans le chaos. Et donc voilà, enfin, finalement, en fait, tout ça pour dire que semaine chargée aussi, parce qu'avec Maxime, on a dû faire un point là-dessus, parce que souvent, c'est lui qui se retrouvait à se charger de la relation client, d'être le contact principal avec les clients, alors que c'est moi qui suis censé l'être. Mais en fait, voilà, c'est compliqué parce qu'à un moment où, du coup, c'est lui qui va faire la vente, mais du coup, le client, lui, dans sa tête, il doit continuer à parler à la même personne, alors qu'en fait, non, c'est censé changer d'interlocuteur, en l'occurrence, moi. Donc, on a remis ça au clair avec Maxime, ce qui nous permet vraiment de mieux poser les limites de nos responsabilités à chacun. Donc, moi, vraiment, voilà, c'est vraiment, je m'occupe de tout le parcours client à partir du moment où, du coup, où ça devient client. Maxime se charge de tout le parcours prospect et vente, donc. Voilà, ce qui fait que voilà, moi, je sais sur quoi je dois me concentrer et donc concentrer tous mes efforts. Et Maxime, pareil de son côté. Bien sûr, on communique entre nous, hein, s'il y a des points qui ne vont pas. Enfin, on reste tous les deux les dirigeants de l'entreprise, donc il faut qu'il y ait une bonne communication, mais c'est juste. Voilà, chacun limite ses responsabilités. Je pense que vous avez compris. Et donc, pour conclure cette semaine chargée, podcast. Du coup, ce format, aujourd'hui, en fait, voilà, j'ai voulu faire un format comment dire, je vais vous parler plus en détail du livre que j'avais abordé au premier épisode du podcast, il me semble. Ce livre, c'est donc Take Your Shot de Robin Waite. Alors, déjà, comment est-ce que j'ai entendu parler de ce livre? Ce qui est bien, c'est que c'est un livre qui est assez fin, contrairement aux gros bouquins sur le business ou productivité ou développement personnel que j'ai l'habitude de lire. Celui-ci est très fin, il doit faire 60 pages, peut-être un peu plus, enfin en tout cas moins de 100 pages, ça c'est sûr. Et donc j'ai, c'était dans un podcast de Ali Abdal, donc qui est entrepreneur anglais, et qui est un peu, c'est mon modèle en termes de productivité, il est incroyable. Et donc, j'ai écouté son podcast et il accueillait Robin Waite, qui est coach pour entrepreneurs. Et donc, le sujet de ce podcast, c'était, si je me souviens bien, comment construire un business en 2023 d'une façon simple. Et dans ce podcast, c'était assez... c'était sympa la manière dont c'était tourné. C'était donc... Parce que c'était Ali Abdal qui recevait Robin Waite dans son podcast. Et du coup, c'était... Enfin, ils se sont prêtés à l'exercice où en fait Ali Abdal faisait comme s'il voulait démarrer son business alors qu'il était médecin, ce qui était le cas avant en plus. Enfin, je crois qu'il est toujours médecin. Enfin bref. Donc Ali Abdal disait qu'il voulait voilà, avoir son business en parallèle de son job. Et donc Robin Waite voilà, l'accompagnait pendant... Enfin, il faisait le coach en fait. Le coach pour le challenger, lui poser les bonnes questions. Et... voilà, pendant cet exercice, vraiment montrer, en fait, enfin voilà, le pousser à l'action et lui montrer les clés qui pouvaient exister par rapport à ça. Et moi, ça m'avait bien plu, je me suis renseigné sur Robin Waite, parce que de toute façon, dans le podcast, il parlait du fait qu'il avait écrit son livre Take Your Shot. Je crois d'ailleurs qu'il a aussi d'autres livres, peu importe. Et donc, je me suis dit, vas-y, je vais commander le bouquin, il m'avait l'air sympa. Et voilà, c'est un livre qui est vraiment riche d'apprentissage. Et surtout, Donc, j'avais aussi dit ça dans le premier épisode, hein. Mais la manière dont c'est raconté est très intéressante et très, très ludique et intuitive, parce que c'est présenté sous forme... donc lui, il donne des leçons, l'auteur, il va donner des leçons dans le bouquin, mais c'est présenté souvent sous forme d'histoire, où donc c'est un prof de golf qui souhaite... enfin voilà, qui est indépendant, hein, qui vit juste des leçons de golf qu'il donne à ses élèves, mais le mec galère. C'est vraiment... comment dire, ses élèves ne se pointent pas. Enfin, quand je dis élèves, c'est des adultes, hein. Mais ils ne se pointent pas aux cours, enfin aux séances et tout, sachant qu'ils donnent des cours individuels. Ils annulent au dernier moment, ce qui fait que lui, du coup, bah voilà, quoi, il avait prévu, par exemple, 3 séances sur la journée, bah il se retrouve à en faire que une, et donc le reste, c'est juste, c'est tant pis pour sa gueule. Donc voilà, jusqu'au jour où il va avoir un nouvel élève. Il s'avère être un coach pour entrepreneurs. Et voilà, à mesure en fait des leçons de golf que le gars va lui donner, que le prof va lui donner. Alors, je donnerai bien le prénom, mais j'ai totalement oublié les prénoms des personnages. Je me souviens rarement des détails dans ce genre de livre, malheureusement. Heureusement, je prends des notes, mais pas sur les noms des personnages. Et donc, voilà, à mesure des leçons de golf, ce mec va lui apprendre à mieux développer son activité au travers de différentes leçons. Et c'est ça que je vais vous synthétiser en ajoutant mon avis sur les leçons qui sont données. Et voilà, donc c'est parti. Let's go. Alors, déjà, une des premières leçons que son coach va lui donner à notre prof de golf, c'est que voilà, la rencontre avec un prospect, donc un prospect, pour rappel, hein, c'est bien une personne avant qu'elle devienne cliente. Donc c'est, comment dire, c'est assez difficile de définir un prospect. Non, mais c'est, voilà, c'est un peu la cible, c'est un peu la cible de notre du business, quoi, de notre produit, de notre service. Donc la rencontre avec un prospect doit se faire d'une manière naturelle, aussi naturelle qu'avec n'importe quel humain. Donc c'est, bah voilà, tout bêtement, hein, en demandant son prénom et en se présentant, hein. Et parce que l'idée derrière ça va être de développer de l'empathie et de susciter la confiance. Et je pense que c'est quelque chose d'important, puisque aujourd'hui ça va vite être voilà, directement, enfin, déjà la personne qui va vouloir vendre son produit ou son service va être, je sais pas, dans sa tête suite orientée, il faut que je lui vende quelque chose. Mais moi, c'est pas comme ça que je vois ça. Il faut d'abord développer une relation et ensuite proposer peut-être de vendre quelque chose à la personne, et pas en mode fourbe ou quoi. C'est vraiment juste, on est deux humains, on discute, si je ressens que la personne, elle a un besoin en face et que moi, je peux répondre à ce besoin, là, on va plus loin et là, on part en mode vente. Mais d'abord, c'est une question d'échange. Surtout, alors après, voilà, il y a plusieurs types de... Il y a plusieurs types de business. Si vous vendez des produits en ligne, par exemple, bon, ça va être compliqué de développer une relation, enfin, de créer de l'empathie, tout ça, chez le prospect. Mais... voilà, imaginons, vous êtes, je vais prendre un exemple, imaginons vous êtes une personne indépendante qui fait de la couture et qui souhaite vendre vous faites de la couture et vous voulez vendre ce que vous faites en ligne sur votre site, voilà, sur votre e-shop. Comment vous allez pouvoir créer une relation? Bah déjà, si vous êtes présent ou présente sur les réseaux, ça va permettre déjà de montrer qui vous êtes, de montrer vos valeurs, de montrer à qui va aller l'argent que le prospect ou le client va dépenser pour le produit ou service acheté. Donc ça, c'est important. Enfin voilà, si vous, pour une personne qui veut lancer son business, je dirais que du coup, elle doit s'intéresser déjà à la personne à qui elle veut vendre, à son persona cible. C'est très important juste pour comprendre bah voilà, qu'est-ce qui intéresse réellement cette catégorie de personnes et ensuite pour vraiment savoir comment créer cette relation en se présentant de manière naturelle comme avec n'importe quel humain. Bon, ça c'était juste, ça faisait juste partie de l'intro dans le livre. Mais c'est vraiment c'est le point de contact, hein. C'est vraiment la première impression que vous allez avoir, enfin que vous allez pouvoir donner à un prospect. Ensuite, la toute première leçon que notre coach va donner, c'est, ça peut paraître élémentaire, mais c'est définir un but. Voilà. Quel est vraiment le but? Enfin voilà, une vie sans but clairement définie, c'est un peu des actions insignifiantes enfin voilà, qui ne font pas forcément amener, enfin, qui ne font pas forcément avancer vers une direction claire, dans un certain sens. Et donc, il faut définir un but et faire en sorte que toute l'activité soit dirigée vers ce but unique. Et à chaque fois que je démarre une activité dans mon entreprise, la question que je dois me poser, c'est est-ce que cette activité va me rapprocher ou non de mon but? Ça, c'est très important parce que il y a une différence entre être actif et être productif, surtout quand on est entrepreneur. Parce que être actif, ça va juste être faire des choses, et être productif, c'est faire des choses qui ont du sens, donc qui vont nous amener vers un objectif. Et donc, voilà, est-ce que cette activité va me rapprocher de mon but? C'est une question qu'il faut toujours se poser. Alors des fois, ça va rapprocher de manière indirecte. Des fois, on va se trouver les bonnes raisons pour quand même faire cette activité parce qu'on se dit non, mais c'est vraiment nécessaire. Ça va me rapprocher de mon but. Mais il faut être aussi honnête avec soi-même. Et c'est là que moi, je pense souvent à la loi de Pareto qui dit que, et je crois que j'en ai déjà parlé aussi, comme quoi j'y pense souvent, qui dit donc la loi de Pareto que 80% des, comment dire, des résultats est généré par 20%, enfin non, 80% des conséquences est généré par 20% des causes. Ce qui veut dire que, voilà, sur une semaine, je peux prendre toutes les actions que je faire, mettre en place dans mon entreprise. Et à la fin de cette semaine, je vais me dire, OK, parmi toutes ces actions, il y en a 20% qui ont généré 80% de résultats. 20% d'actions qui ont généré 80% de résultats. Et il faut réussir à les identifier en étant honnête avec soi-même. Et cette loi, elle est universelle. Alors, c'est pas toujours 80 et 20%, hein. Mais vous allez vous rendre compte que dans votre vie perso, je sais pas, que 20% de vos relations vous apportent 80% de votre épanouissement, que 20% de vos catégories de dépenses consomment 80% de votre budget. Bon, c'est un exemple. Mais donc voilà, c'est. Et outre même le fait que ce soit dans l'entreprise, il faut toujours se poser la question de savoir si cette action, cette activité va me rapprocher de mon but. Est-ce que je suis actif ou est-ce que je suis productif? Et pour revenir quand même à l'entrepreneuriat, parce qu'on est là pour ça, hein, il y a le gut instinct, donc qui est en gros. Au niveau des son entrepreneur, au niveau des tripes, on sent si les choses sont si... enfin on sent en fait si on est dans la bonne direction, si on fait si ce qu'on fait est utile ou pas. Et quand on est entrepreneur, justement, le gut instinct, c'est vraiment un des outils le plus puissant. Donc il faut beaucoup s'en servir, voilà, en tant qu'entrepreneur. C'est un très bon outil. Quand des fois on fait quelque chose et qu'on sent au fond de ses tripes que on devrait pas être en train de faire ça et qu'il y a peut-être autre chose qui pourrait générer plus de résultats ou nous faire plus avancer, eh ben il faut réfléchir si on a ce sentiment-là. Et justement en définissant un but, on apprend une chose qui est que voilà, si on sait qu'en fait nos actions vont nous diriger vers un but. On apprend aussi que la manière la plus simple d'échouer en étant entrepreneur ou même dans la vie, c'est de procrastiner. Parce que c'est plus efficace de prendre rapidement une décision, quitte à se tromper, pour ensuite pivoter et ajuster le tir. Ce qui compte, c'est d'agir et pas d'agir juste. Et à cela, je rajouterai que faut pas avoir peur de voir grand en termes d'objectifs, parce que si on voit grand, les actions et les résultats suivront forcément derrière. Voilà, c'était pour cette première leçon. Oula, j'arrive plus à parler. C'était cette première leçon donc pour définir sur la définition d'objectif. La leçon numéro 2, c'est sur la création d'un produit. Parce que, et enfin voilà, ça explique que c'est le process d'onboarding du prospect qualifié. Donc vraiment, comment est-ce qu'un prospect qui est intéressé, je vais lui présenter mon produit. Et on va voir ce qu'on appelle produit après. Pour ensuite réussir à le convertir en client. Et justement, il faut montrer au prospect la proposition de valeur. Donc, qu'est-ce que ce que je vais lui vendre, donc le produit, le service que je vais lui vendre, va lui apporter. Donc, c'est la proposition de valeur. Pour l'exemple de Lumessia, voilà, ce qu'on vend, ce n'est pas un service de gestion de réseaux sociaux, mais une visibilité en ligne supérieure à celle des concurrents et qui s'en démarque. C'est donc ça le produit qu'on vend. C'est ça la proposition de valeur. Donc voilà, le produit doit posséder un ensemble de fonctionnalités et qui donne un résultat garanti au client. C'est difficile à définir dans le cadre de service, mais ça reste quand même quelque chose de faisable. Et pour ça, ça doit être livré en une période de temps définie, ça doit être reconnaissable. Et finalement, ce que je viens de dire, c'est ce qu'on appelle le packaging en fait. C'est-à-dire, vraiment, c'est le cadre dans lequel le produit va être délivré. Qui va, voilà. Et donc, pour garantir un résultat spécifique sur une certaine durée de temps, les efforts ils doivent être concentrés sur un aspect. Je vais donner un exemple pour Lumessia, encore une fois, mais c'est que si on garantit en 6 mois une présence en ligne qui se différencie des concurrents, alors on va se concentrer que sur un seul réseau. Sur cette période, dans l'offre principale. Les autres aspects vont se travailler via des upsells, mais l'offre de base doit se concentrer sur un seul aspect pour garantir le résultat pour lequel le client a payé. Alors, attention, nous, on ne fait pas ce truc de garantie dans nos offres. Hein. Je précise quand même, c'est quelque chose qui est difficile, je pense, à mettre en place, surtout dans notre cas où on est une agence, voilà, de com sur les réseaux, quoi. Je trouve que c'est difficile de garantir un résultat à moins que ce soit vraiment quelque chose de simple, quoi. Mais voilà, en fait, on travaille dessus. Moi, j'y réfléchis très souvent. Comment est-ce qu'on peut avoir ce résultat garanti, cette proposition de valeur pour laquelle le client est sûr et enfin, il sait pourquoi il paye. Mais voilà, en tout cas, voilà, ça montre bien que c'est une leçon. Une leçon importante et que d'ailleurs, il faut aussi que nous, on arrive à mettre en place, mais on travaille là-dessus. La troisième leçon, elle est assez courte celle-ci. Le nom de la leçon, enfin dans mes notes en tout cas, j'avais noté juste "Take your shot". Ça veut dire en gros, c'est difficile de traduire en français, mais c'est en gros saisis ta chance. Dans cette leçon, Robin Waite, il nous dit que quand j'ai des clients, je dois répondre à deux pourquoi. Le premier, c'est pourquoi est-ce que mes clients donc après ensuite c'est entrecroché la valeur client délivrée, mais pourquoi est-ce que mes clients veulent, dans le cas de Lumessia, pourquoi est-ce que mes clients veulent avoir une présence en ligne supérieure à leurs concurrents, ou plutôt même non je dirais plutôt pourquoi mes clients veulent-ils de la présence sur les réseaux plus large. Donc voilà, il faut pouvoir répondre à ces deux pourquoi. Ben, j'ai pas dit le deuxième, ah pardon. Le premier, c'est donc pourquoi est-ce que mes clients veulent-ils de la présence sur les réseaux. Le deuxième pourquoi, c'est pourquoi est-ce que mes clients m'ont choisi moi. Et si j'ai la réponse à ces deux questions de façon claire, vraiment de façon voilà, limpide, et que j'avance avec ça en tête, alors je serai plus en mesure de cibler la bonne clientèle et je connaîtrai les bons arguments pour leur faire saisir la valeur ajoutée. Et ça, c'est ce qui va... Déjà, dans cette manière de faire, ça va nous différencier de nos concurrents à nous, parce qu'ils ne vont pas forcément réfléchir de cette manière-là. Et là, ça va vraiment être une manière de concentrer ses efforts de la bonne façon, d'une manière qui marche. Et aussi, il faut, ça c'est plus mon avis à moi, mais il faut se laisser le temps de tester différentes choses sur une certaine période donnée. Si je pense avoir la réponse à ces deux questions, Dans ce cas, je vais choisir mieux ma cible pour tester et lister aussi les arguments que je devrais avancer au moment de la prospection. Voilà. La leçon 4. La leçon 4, je l'aime bien. Bah, déjà, le don, c'est générer plus d'argent, mais en dehors de ça, cette leçon, elle liste trois erreurs communes de tarification qui sont faites par les entrepreneurs en général. Déjà, c'est de facturer un taux horaire pour des services. C'est quelque chose qui, enfin, c'est en fait, c'est vraiment juste pas une bonne pratique parce que ça empêche de productiser. Par exemple, bah nous, je vais faire l'exemple pour nous en fait. Mais c'est que nous, voilà, on vend pas, c'est pas un taux horaire qu'on vend à notre client par rapport aux heures qu'on facture. C'est, on lui dit, bah, vous payez 349 euros par mois, vous avez 12 publications, voilà. Enfin, plus, enfin, quelques autres trucs, mais c'est le cœur de notre offre. Vous avez 12 publications sur votre réseau social préféré. Enfin, a priori, nous, c'est Instagram, hein. Mais voilà, on va pas facturer un taux horaire. Ce qui fait qu'en fait, le client, il sait combien il paye, il sait ce qu'il va avoir à la fin, et c'est un produit. Imaginez que maintenant, votre produit, votre brosse à dents sur Amazon, que vous avez par exemple acheté, imaginez que votre brosse à dents, vous la payez en fonction de l'heure que ça, enfin du temps, je veux dire, que ça a mis pour qu'elle arrive jusqu'à vous, d'une certaine manière, je veux dire, par rapport aux ressources humaines que ça va prendre. Si au total, ça a mis, ça, il y a eu besoin de 10 heures à ce qu'elle soit mise dans le carton, livrée jusqu'à vous, vous n'allez pas payer votre brosse à dents en fonction de ça. Ce serait totalement hallucinant. C'est pour vraiment faire le parallèle avec un produit physique. Mais dans le cadre de service, c'est une grosse erreur, et pourtant très commune, de facturer un taux horaire pour des services. Il faut productiser, créer une sorte de, ouais, voilà, créer un packaging pour votre service, pour votre offre. C'est un élément essentiel et ça peut vraiment changer la. Ça peut vraiment être game changer pour le business model d'une entreprise. Le deuxième point, donc la deuxième erreur commune de tarification, c'est de facturer comme tous les autres facturent. Il faut facturer sur base de la valeur du résultat que je veux livrer à, que je peux livrer à mes clients. Et ensuite, incrémentalement, petit à petit, ajouter plus de valeur pour fournir un service de meilleure qualité et ensuite donc facturer plus. Et pour ça, il est possible de tester le marché en y lançant un prix et en jaugeant s'il y a ou non des résistances. De la résistance, pardon. Et ce point-là, je l'avais déjà abordé dans un des épisodes avec Maxime, où je disais qu'en fait, à chaque fois qu'on a un rendez-vous vraiment avec un prospect qualifié, donc vraiment qui est, on va dire, qui est juste l'étape où on lui dit, voilà, on lui présente notre proposition de valeur, justement. Je crois qu'il n'y a aucun moment, c'est-à-dire vraiment 0% de situation où le client nous a dit, what the fuck, vous êtes trop cher. Enfin, s'il y a eu un moment, mais c'était pas un prospect qualifié, donc ça compte pas. Il n'y a eu aucun moment où on nous a dit que c'était trop cher. Donc, est-ce que ça pourrait être intéressant de tester le marché en y lançant des prix un peu plus haut et jauger s'il y a ou non de la résistance? Moi, je pense que oui. Là, on facture à 349 euros par mois. Personne ne s'est jamais opposé à ce prix-là. Donc, après, c'est aussi dans notre vision de, voilà, de faire du low cost. C'est comme ça qu'on veut faire. Mais est-ce qu'on pourrait quand même pas augmenter les prix jusqu'à ce qu'il y ait un petit peu de résistance, que les clients hésitent un peu plus, mais qu'ils signent au final? Ça rend quelque chose à discuter, et moi je pense qu'il faudrait tester le marché. Alors, on n'est pas dans cette phase-là encore. Enfin, si, quoique, non, je dis ça, mais en fait, on est dans une phase où Maxime va vraiment se concentrer sur la prospection. Donc peut-être que c'est le moment de tester des prix différents. Voilà, ce sera discuté. Vous en saurez plus dans les prochains épisodes. Mais voilà, ça c'est intéressant parce que tous vos concurrents vont facturer d'une manière différente. Oui, ils vont facturer, enfin voilà, pas sur cette base-là de la valeur du résultat que je peux livrer à mes clients. Et ça c'est très important parce que si on sait quelle est la valeur de ce que je délivre au client, de ce que je livre, pardon, au client, et que c'est une valeur, voilà, une valeur qui est OK pour eux, ou qui oppose un petit peu de résistance, enfin bref, qui est la valeur adéquate, c'est ça que je vais chercher. Et ben, si j'ajoute plus de valeur, logiquement, je vais pouvoir facturer plus, tout simplement. Et ça, le client n'opposera pas de résistance. C'est pour lui, la valeur augmente aussi. Je pense que vous voyez ce que je veux dire. Troisième erreur, c'est de ne pas être assez courageux lorsque je cherche à augmenter les prix. Ce qui veut dire que si par exemple j'ai 10 clients qui sont satisfaits du rapport qualité-prix, qu'un seul prospect me dit que c'est trop cher, bah, il faut écouter la majorité. C'est mathématique, j'ai envie de dire. Ceux qui sont satisfaits du prix, donc. Pour les clients qui paient déjà au prix de base, qui voient des prix augmenter, une part d'entre eux risque de ne pas être satisfait et de partir. Mais voilà, comme je disais juste avant, c'est l'augmentation du prix qui peut se faire donc petit à petit de façon incrémentale. Ou alors, moi, c'est mon avis, il y a un autre truc, c'est que pour les clients déjà signés, on garde le même prix et le jour où ils veulent partir, on leur dit, OK, vous pouvez partir, par contre, si vous décidez de revenir. Même si c'est dans un mois, ce sera les nouveaux tarifs. Donc là, il y a peut-être plus de chances que le client veuille au final rester. Surtout dans notre cas où on fait du low cost, ça les embêterait un peu peut-être que les prix augmentent s'ils reviennent plus tard. Et il faut pas oublier un truc très important, c'est que les nouveaux prospects qui n'ont pas encore été exposés à ma hausse des prix, pour eux, en fait, je peux facturer un peu comme je le souhaite, parce que sans justification, tout. Parce qu'ils n'ont pas, ils ont pas idée du dernier prix que j'ai fait, quoi. Donc voilà. Donc ces trois erreurs, pardon, c'était de facturer un taux horaire pour des services, de facturer comme tous les autres factures, et de pas être assez courageux lorsque je cherche à augmenter mes prix. Il faut tester et il faut tester ce truc-là. Surtout le troisième point. Ok. On a la cinquième leçon qui est de savoir pitcher un produit et d'obtenir de l'engagement. Alors ça me fait un peu rire, c'est juste parce que moi je sais pas toujours bien pitcher un produit. Donc pitcher, c'est juste apprendre à bien vendre son produit en peu de temps, on va dire. Moi je sais que justement, avec Maxime, il y a un moment où on s'était un peu prêté à l'exercice de dire vraiment, je crois, qu'on sache expliquer en 20 secondes quoi, ce qu'on fait exactement. Et que qu'on sache expliquer ça. Mais que la personne à qui on l'explique, elle sache vraiment clairement ce qu'on fait à la fin de cette explication, de ce pitch. Et dans sa leçon, du coup, il dit que c'est très très simple de pitcher une idée de nos jours. Il suffit de prendre une entrée pour un événement de networking et de pitcher mon idée à la première personne que je rencontre. Ce qui permet de faire une étude de marché au final. Et qu'en fait, en fonction du résultat, si je vois que la personne elle n'aime pas mon idée, n'est pas intéressée, je change, je vais pitcher une seconde fois. Et vraiment petit à petit, ou peut-être au bout de la cinquième, dixième personne, j'aurai le pitch, entre guillemets, parfait. En tout cas, optimal. Et donc voilà. Pardon, je fais une petite pause. Une fois que j'ai mon offre, il faut que j'obtienne de l'engagement en amont de la part du prospect. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que... Et ça, j'en avais aussi parlé dans le podcast, c'est vrai que c'est un point bloquant pour nous, c'est qu'il faut en fait obtenir de l'engagement de la part du prospect au moment où il va signer et donc logiquement devenir un client. C'est que il faut une sorte de case à cocher où il va s'engager lui-même à suivre les préconisations, je vais donner un exemple après, qui sont essentielles pour obtenir le résultat voulu. Dans le cadre du prof de sport, c'est juste que, alors si je me souviens bien, c'était il fallait qu'il fasse cocher une case à son élève, que son élève devait faire deux entraînements dans la semaine en plus de son cours pour travailler la mémoire musculaire parce que c'était quelque chose d'essentiel et qu'il ne pourrait pas progresser s'il ne faisait pas ces deux entraînements-là. Dans le cadre de l'UMESIA, là où il nous faudrait vraiment. Il nous faudrait vraiment de l'engagement de la part du client. C'est en fait sur le fait qu'il soit bien rigoureux pour l'organisation de son shooting. Et on avait eu le problème avec un client qui avait préparé le shooting à moitié, C'était dans un... Enfin, oui, la moitié des choses étaient prêtes. Donc, c'était pas... C'était... Du coup, ça a déteint sur la qualité de ce que nous, on faisait, alors qu'en fait, nous, on a bien fait notre taf. Et le client, non. Donc, ça, on travaille aussi là-dessus. Ça paraît évident, hein, à mettre en place. Mais c'est pas facile de trouver la bonne manière de l'amener ou de... Ou juste... Juste obtenir vraiment concrètement l'engagement de la part du client. Et voilà, en fait, il y a un bon moyen d'obtenir de l'engagement. Ça, c'est aussi, dans sa leçon, il dit, c'est d'avoir une politique de remboursement à 100% qui permet d'avoir de se mettre le prospect dans la poche. Et il y a beaucoup ça pour les formations en ligne, qui est que voilà, vous avez un mois pour être 100% satisfait ou remboursé. Oui, c'est ça. Satisfait ou remboursé à 100%. C'est vrai que c'est une bonne manière parce qu'en général, les gens sont satisfaits. Ou alors, ils ont la flemme de faire la démarche pour être remboursés. Et dans notre cas, nous, là, par contre, c'est compliqué pour l'UMSI à mettre en place cette politique de remboursement à 100%. Enfin, voilà. Il faut qu'on voit. En fait, faut que ce soit un truc qui est obvious pour nous, enfin, dans le sens où on pourra. Elle pourra jamais être invoquée, cette politique de remboursement. Mais plus facile à dire qu'à faire. Donc, à voir. On peut juste dire. Non, je sais pas. Enfin, bref. Ce sera à discuter. On n'est pas là pour. On n'est pas là pour trouver les solutions pour l'UMSIA. Donc, voilà. Cette leçon 5, c'était sur comment pitcher et obtenir de l'engagement. Pitcher son produit. Donc, voilà. Savoir bien le vendre, le présenter à son prospect et obtenir de l'engagement de la part du client ou du prospect qualifié, en tout cas. On arrive bientôt à la fin. La leçon 6, c'est sur le parcours utilisateur. Et parcours utilisateur, pardon, c'est très important. Moi qui ai fait pendant quand même 2 ans, je crois, c'était ouais, du design d'application. Le parcours utilisateur, c'est très important. C'est là qu'il faut qu'il y ait le plus de simplicité pour lui. Et peut-être que je précise, ce qu'on appelle le parcours utilisateur, c'est les différentes étapes que l'utilisateur va avoir à partir du moment où il devient client. Enfin, même en principe avant, si on veut vraiment couvrir tout le process. Mais donc voilà, il faut que ce soit guidé. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, les applications sont de plus en plus fluides. C'est pour avoir un parcours utilisateur le plus simple possible et aussi le plus engageant, hein, pour l'utilisateur. Donc, dans sa leçon, il dit en fait, et ça j'aime bien la manière dont il explique ça, qu'il faut tenir mon prospect par la main et le guider pendant l'entièreté de mon process. Et si je lui lâche la main à un seul moment, eh ben, j'ai de fortes chances de perdre mon prospect. Et il dit ensuite qu'il y a seulement 3 mots à se souvenir en vente: connaître, aimer et confiance. Il faut connaître son prospect. Il faut aimer son prospect. Non, je pense que c'est plutôt là, le aimer, c'est plus. Enfin, il faut créer une bonne relation où l'utilisateur va aimer son produit, ce pourquoi il paye. Et donc, logiquement, l'image de marque que l'entreprise a derrière. Et confiance, bah, parce que du coup, il faut que l'utilisateur ait aussi confiance en son produit. Et justement, après, ça explique qu'aujourd'hui, on vous appelle à la phase du café et directement mener nos prospects dans la vente de nos produits et services. Mais c'est contre l'idée de construire une relation longue, long terme et de confiance avec eux. Et ça, c'est important parce que et c'est là au fait aussi, oui, c'est là qu'il faut obtenir de l'engagement de la part du prospect. Et c'est quelque chose d'impératif parce que le prospect, il a aucune idée, ou le prospect ou le client, hein, il a aucune idée de mes process, des process de l'entreprise, de comment est-ce qu'on fonctionne, ni de nos résultats. Hein. Le prospect en général ne sait pas. En tout cas, dans notre cas, il ne sait pas combien on a de clients ou quoi. Donc voilà, il faut obtenir de l'engagement de sa part parce que cet engagement, ça représente son adhésion à nos systèmes et à nos process. Ce qui veut dire que si j'ai l'engagement de mon prospect, lui, il va suivre derrière. Il se dit, OK, bah, les gars, enfin, ces mecs-là, c'est eux les experts. Je vais suivre, ils savent ce qu'ils font. Et là, il y a de la valeur derrière dans ce qu'ils font. Et voilà, il faut que son cerveau lui dise « trust the process », tout simplement. Et le parcours utilisateur, on peut le décomposer en trois étapes. Il y a la vente, où je convainc le prospect avec que la valeur que je lui ai délivrée vaut le prix auquel je lui vends et qu'il en a réellement besoin. La livraison, ça c'est la deuxième étape. Donc la livraison de ce que j'ai promis, ce pourquoi il paye, hein, logiquement, avec le même niveau de qualité que lors de la vente. Ça c'est important, parce que sinon c'est un client qui est déçu et qui risque donc de partir. Et la troisième étape de ce parcours utilisateur, c'est le suivi pour être sûr que le client ne ressente pas le remords de l'acheteur. Donc que ce que j'ai délivré va rendre mon prospect heureux pour un certain temps après la livraison. Donc voilà. Par exemple, nous, bah, ça peut être que déjà, on délivre... faut que j'arrête de dire délivrer, ça c'est en anglais, qu'on livre dans les temps, et que du coup, les photos, voilà, les photos qu'il aura eues pendant le shooting lui procurent de la joie suffisamment longtemps. Donc pour ça, on peut lui donner accès aux photos, il peut les télécharger, les afficher où il veut. Voilà, ça peut être un bon moyen d'assurer le suivi dans ce parcours. Et pour ce parcours utilisateur, je dirais que c'est tout dans l'ensemble. Et dans sa leçon, il conclut par le fait que la productisation, c'est un élément clé de la vente de services. C'est vraiment, c'est la clé. Pour moi, c'est la clé, c'est simple. C'est vraiment, ça tombe sous le sens. Il faut productiser des services. Parce que du coup, ça permet de rendre les services tangibles et de facturer plus au client car il paie pour un outcome, je ne sais plus comment c'est en français, pour un résultat vraiment, plutôt que pour de simples services. Ça, c'est très important. Et maintenant, la leçon numéro 7, mais qui est assez court en plus, c'est... en anglais, ça, ouais, le nom de cette leçon, j'ai du mal à traduire en français, mais c'est la valeur du client à vie. Qui dit en fait que la loyauté des clients, c'est ce qu'il y a de plus précieux dans le process de vente. Ça, je suis d'accord totalement avec ça. Et que c'est plus rentable de garder un client satisfait que d'en convertir un autre. Parce que le client satisfait, il va faire deux choses. Il va revenir et acheter de nouveau mes produits. Donc, dans notre cas, ça se trouve, au bout de 6 mois, il va être hyper content de ce qu'on fait. Il va vouloir prendre plein d'upsells pour avoir encore une plus grosse présence en ligne. Ça, c'est cool. Et il va devenir la meilleure forme de marketing. C'est le deuxième point. Parce que, voilà, il va, en quelque sorte, enfin, plutôt métaphoriquement, il va rayonner et donc parler de nous autour de lui, laisser un bon avis sur nos réseaux, sur Google Maps, peu importe. Et donc voilà. Là, on a couvert, avec cette leçon, on a couvert un peu tout le process, toutes les étapes clés pour créer une entreprise. Je trouve ça... Voilà. En fait, quand j'ai lu ce bouquin, on avait déjà lancé l'aventure avec Maxime et ça avait bien... ça a pas mal changé ma manière de voir les choses. Certaines leçons qu'on a mis en pratique chez Lumessia, d'autres qui nous restent encore à peaufiner ou tout simplement vraiment mettre en place. Ça montre aussi que voilà, Lumessia tourne et ça montre que c'est pas parce que si on n'applique pas chacune de ces leçons scrupuleusement qu'il faut que ça va pas marcher. Mais voilà, ça c'est juste en fait, c'est des bonnes pratiques et des éléments clés à mettre en place qui vont permettre aussi, je pense, à une entreprise de se développer plus rapidement. Donc, petit résumé, la leçon 1, c'était de définir un but. Donc voilà, avec un objectif clair et précis pour l'entreprise, que toutes les actions contribuent à atteindre cet objectif. Et ça partage aussi un outil puissant qui est l'instinct d'entrepreneur, donc le gut instinct, comme je disais. La leçon numéro 2, c'était de créer un produit avec un ensemble de fonctionnalités qui donne un résultat garanti au client dans un délai défini, en s'assurant que le produit est facilement reconnaissable. La leçon 3, c'était « Take your shot, saisis ta chance », qui disait de comprendre pourquoi mes clients choisissent mon produit ou service et d'utiliser ces informations pour cibler plus efficacement ma clientèle et formuler des arguments convaincants. La leçon numéro 4, c'était de générer plus d'argent en évitant les 3 erreurs courantes de tarification. Donc, il faut fixer les tarifs en fonction de la valeur du résultat que je peux livrer à mes clients. Et il faut que je sois courageux lors de l'augmentation de mes prix. La leçon numéro 5, c'était... Je vais arriver à arrêter de bégayer. La leçon numéro 5, c'était de pitcher un produit et d'obtenir de l'engagement. Donc, il faut que je m'assure d'obtenir un engagement clair de la part de mes clients. utilise un contrat pour rendre le service tangible et obtenir un engagement total de la part du client. La leçon numéro 6, c'était sur le parcours utilisateur. Comme quoi, il faut guider le client tout au long du parcours, de la première rencontre jusqu'à la prévente, et ne pas oublier les trois mots clés en vente qui sont connaître, aimer et confiance. Septième et dernière leçon, c'était la valeur du client à vie. Que la loyauté, c'est quelque chose d'essentiel de la part des clients, bien sûr. Enfin, aussi nous envers les clients. Et qu'il est plus rentable de garder un client satisfait que d'en convertir un nouveau. Et qu'un client satisfait deviendra la meilleure forme de marketing dans mon entreprise. Et puis, il reviendra acheter mon produit, enfin mes produits. Voilà. Alors, c'était la première fois que je faisais un résumé de lecture, on va dire, en podcast. Donc, j'ai pas mal bégayé parfois. J'espère qu'il y avait assez de rythme. En tout cas, n'hésitez pas à me laisser votre feedback parce que ça m'intéresse vraiment de m'améliorer en fonction de vos différents avis. Et puis, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Si vous avez besoin de plus de précision, pareil, n'hésitez pas. Je sais que, en général, j'aime bien rester sur une description qui est plus une vue d'ensemble. Mais donc, voilà. J'espère que cet épisode d'Allumer la lumière vous aura plu. N'hésitez pas à laisser 5 étoiles sur le podcast. Oui, 5. Ça permet d'avoir une bonne visibilité sur les plateformes. Et écoutez, on se retrouve à la semaine prochaine. Ciao !